Bonjour, vous êtes sur Aligre FM 93.1. Je suis Anne Boucharla et je vous présente l'émission Les Grands s'amusent. Les Grands s'amusent, c'est la transmission de nos aînés, nos mémoires vives, c'est la continuité du monde, de nos valeurs et c'est surtout du partage entre générations, une manière de se rapprocher les uns des autres. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Conan. Bonjour Fabrice.
Bonjour Anne.
Vous allez bien ?
Très très bien.
Bon, je suis ravie de vous avoir. Alors, vous êtes né à Versailles, la ville du Roi Soleil. Vous êtes passionné par l'histoire de l'art et conférencier spécialisé dans le XVIIe et XVIIIe siècle. Vous prenez un immense plaisir à faire revivre l'esprit baroque et versaillais lors de visites à thème ou reconstitutions historiques. Mais vous n'êtes pas seulement historien, vous rejoignez la compagnie baroque comme administrateur de production théâtre et musique. Vous y apprenez la prononciation du vieux François et la gestuelle propre à l'art de la scène baroque. Vous êtes aussi un formidable comédien dans la pièce « Les Versaillais » que vous avez écrit et que vous jouez. Vous transmettez à des publics très variés. Et c'est un peu comme si votre ville natale vous avait envoyé vers une destinée de messager royal. Moi, ce qui me plaît chez vous, c'est que l'on sent vous amuser tout en partageant vos connaissances au plus grand nombre. Fabrice Conan, qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel ? En quelque sorte, quelles valeurs vous ont inculqué vos parents, vos ancêtres ?
Eh bien, ce goût et cette curiosité pour l'histoire, tout d'abord, déjà par un papa qui travaillait dans une entreprise qui fait de la restauration de monuments historiques et qui, bien sûr, travaillait à Versailles. Donc déjà tout petit, j'étais avec lui pour voir les restaurations de sculptures, les marbriers, et donc c'était devenu un endroit naturel dans lequel j'arrivais à évoluer.
Ouais.
Et donc soit on adore, ouais. Soit on adhère à ce que vous proposent les parents, soit on peut avoir un rejet aussi, ça mm-hmm. peut arriver, c'est pas parce qu'on est à Versailles qu'on va s'intéresser à l'histoire.
Bien sûr.
Et pour moi, comme j'étais curieux et que j'avais cette immense machine juste à côté, que ce soit le château, le parc, eh bien, tout de suite ça m'a passionné, et grâce donc à ce biais par mon père pour tout ce patrimoine historique, mm-hmm. eh bien, j'ai pu vraiment en profiter très très tôt. Donc voilà, c'est par lui. C'est à cause de lui, mais tant mieux que j'ai pu profiter de cette passion pour l'histoire.
Donc là, vous êtes inscrit à l'école du Louvre.
Oui, oui. Ouais. Après les études donc à Versailles, après ouais. École du Louvre, avec spécialisation l'architecture, décor des grandes demeures, donc l'histoire des châteaux.
Ouais.
Je retombais dedans de nouveau.
Plongé dans les châteaux.
Avec passion. Mmh. Notamment l'intérêt aussi pour tout ce qui va être mobilier et décoration de ces résidences royales. Ce qui permet comme ça d'avoir vraiment un panorama très complet sur l'histoire des châteaux.
Ouais, ouais. Alors, nous sommes en... Moi, j'ai un petit bouton magique, là. Je vais appuyer dessus et nous sommes à Versailles. Nous, on imagine que nous sommes le 6 mai 1682. Qu'est-ce qui se passe autour de nous, Fabrice ?
Alors, c'est la journée par excellence, puisque c'est l'arrivée de la cour et l'installation officielle à Versailles. Ça fait des années que Louis XIV attend cela. Il réside essentiellement à Saint-Germain-en-Laye, qui est la résidence royale la plus proche. Et il décide de transférer dans une maison toute neuve, complètement agrandie et métamorphosée, l'ensemble de sa cour. Et donc, en cette journée du mois de mai, c'est l'événement et rien n'est prêt. Rien n'est prêt parce que le château n'est pas fini. La galerie des glaces ne sera finie que dans 2 ans. Les aménagements des appartements sont, pour ceux du roi et de la famille royale, réalisés. Mais oui. Pour la cour, il va encore y avoir beaucoup d'approximations. L'aile du nord n'est absolument pas construite. Donc on arrive dans un beau château tout neuf, mais pas fini. De toute façon, Louis XIV va passer sa vie dans les chantiers, dans les plâtres et dans les travaux. Mais ça, tout le monde le sait, dès qu'on a une petite maison, on a toujours des chantiers. Donc quand la maison est grande, les chantiers sont démultipliés. Et donc cette cour arrive ici, découvre pour beaucoup le château. Certains l'avaient vu une 15aine d'années, une 20aine d'années auparavant, quand Louis XIV avait donné des fêtes, et c'était dans les jardins, puisque c'était auparavant la maison de Louis XIII, donc c'était tout petit. Et là, il découvre un site immense, avec des appartements avec les décors les plus nouveaux, très influencés par l'Italie, beaucoup de couleurs, beaucoup de matériaux très riches, les marbres, l'or, le bronze. Donc il y a vraiment un effet d'éblouissement.
Donc ce qu'on appelle l'esprit baroque.
Voilà, là on est vraiment, en plus dans ces années 1670-1680, dans cette époque la plus baroque du règne, où c'est très foisonnant, c'est très décoré, très orné. C'est un goût un peu tape à l'œil, parce que quand on le regarde avec nos critères d'aujourd'hui, mais pour celui de l'époque, c'est un goût, on va dire, démonstratif, ce qui est beaucoup moins péjoratif. Mais surtout, il y a une excellence des matières, des travaux qui sont faits, qui rendent chaque objet fascinant. Et donc, cette cour débarque ici. Elle essaie de trouver ses appartements, de s'installer bon an, mal an, et découvre ce nouveau lieu qui va être le siège du pouvoir pendant 107 ans.
C'est ça, c'est le roi soleil qui éclaire et qui domine.
Qui éblouit. C'est le but, c'est vraiment par ce château d'avoir un instrument pour montrer la puissance du souverain et au-delà du souverain, bien sûr, la puissance de l'État. Puisque bien sûr, c'est Louis XIV, c'est une incarnation de l'État et de la nation.
C'est un projet politique.
Ah mais complètement, d'ailleurs. Toutes ces réalisations, tous les spectacles, toute la vie de Louis XIV, de Louis XV ou Louis XVI, par la suite à Versailles, seront toujours avec un arrière-plan, un filigrane politique. Ça reste un chef d'État, donc il est là pour montrer la puissance de l'État et incarner le pouvoir.
Un roi, une foi, une loi. Le roi, c'est moi. C'est ça ? C'est un petit peu le...
Le roi, c'est moi. L'État, c'est moi, ça, il n'a jamais prononcé.
Non.
Et c'est même pas d'ailleurs dans la conception, dans une tête d'un souverain au XVIIe siècle, l'État, c'est moi, ça ne leur viendrait même pas à l'idée. Quand il meurt, Louis XIV dit « je meurs, mais l'État demeurera toujours ». Ce qui montre bien que pour lui, il est là en relais. Ouais. Il est là pour passer, c'est une grande question du passage, passer le pays, le pouvoir à la génération suivante et essayer de porter au mieux et d'améliorer le pays. Et donc, dire l'État, c'est moi, ça voudrait dire qu'après lui, plus rien.
Plus rien, Alors, Fabrice Conan, qu'est-ce qui vous a tant séduit dans ce pan de l'histoire que vous avez choisi ?
C'est le côté, je veux dire, très avif, très exacerbé de tout ce qui se passe. Toutes les passions, tous les événements sont apparemment souvent démultipliés. Quand on est heureux, on n'est pas juste heureux, on est très heureux, on se pâme. Quand on est triste, c'est le désespoir absolu, c'est la catastrophe, c'est des torrents de larmes. Donc tout est vraiment très marqué à l'extrême, très passionné. Et c'est ce côté grande passion qui m'intéresse, que ce soit pour le théâtre, pour la littérature, pour l'architecture aussi, pour les arts. Voilà, on va essayer d'aller au maximum de l'effet à chaque fois. Et en cela, c'est très humain, justement. Oui. Même s'il y a un côté un petit peu exagéré, mais c'est profondément humain.
Et une notion aussi d'art total, avec tout un ensemble d'artisans, où chacun va transmettre son métier.
Oui, un art total et en communication très souvent entre chacun des arts. Alors on le voit pour la scène où les comédiens vont voir les sculpteurs vont voir les peintres parce que tous travaillent dans la représentation, dans l'éloquence, dans l'expression des sentiments. Et même chose pour ces artisans qui travaillent tous ensemble. Imaginez pour faire le bureau du roi, par exemple, le grand bureau de Louis XV, c'est plus de 12 corps de métiers différents qui vont travailler. Donc, il y a des passerelles entre chacun de ses métiers, entre chacun de ses savoirs.
Ils vont tous se coordonner.
Et on est obligé de tenir compte de ce que va faire l'autre, parce que si on produit tout seul dans son coin, votre bureau, il va rester en kit.
Oui. Donc, Louis XIV crée des manufactures, comme la manufacture des Gobelins, qui devait créer justement des objets de qualité exceptionnelle. Donc, grâce à lui, il va y avoir toute une génération d'artisans hyper qui sont dans l'excellence.
Et ça, c'est justement le tour de force de Louis XIV et Colbert. Mais c'est bien de dire Louis XIV, parce que souvent, quand rien ne va au XVIIe siècle, c'est Louis XIV, et quand c'est bien, c'est Colbert. Mais Colbert a quand même été choisi par Louis XIV. L'idée, c'est de d'améliorer toutes les techniques, tous les savoirs. On crée une académie des sciences pour cela aussi.
Oui.
Et de réunir en France les plus excellents artisans qui travaillent sur le mobilier, sur les tapisseries, sur tous les corps de métier, pour arriver à un sommet de qualité qui va fonder finalement le luxe français tel qu'on peut encore le concevoir pour un certain nombre de métiers. Et donc tout ça se met en place effectivement à cette période, en réunissant tous les talents les plus efficaces, les plus novateurs et qui viennent de toute l'Europe. Donc on va recruter en Italie, en Allemagne, partout, pour avoir les personnes qui allaient produire ce qui allait se faire de plus beau.
Et les matériaux aussi, les matériaux qui venaient de...
Les matériaux qui viennent également de partout. On va essayer quand même beaucoup de favoriser les matériaux français. Parce que Colbert trouvait que dépenser de l'argent, faire partir de l'argent à l'étranger pour acheter des produits, ça ne faisait pas travailler les locaux.
Oui.
Et donc, on va ouvrir des carrières, on va ouvrir des manufactures, justement, pour faire travailler sur place et utiliser des ressources qu'on avait, mais qui n'étaient pas forcément exploitées.
Oui.
Donc, c'est une notion, le colbertisme, qui est à la mode ou pas en fonction des époques, mais qui va effectivement apporter un savoir-faire, un pouvoir, une force de frappe, vraiment, pour les métiers d'art français et pour la France en général à cette époque.
Alors, il y a un exemple, c'est le théâtre en bois de plus tard de Louis XVI, qui est aussi un exemple de savoir-faire incroyable, parce que c'est un théâtre en fait qui est tout en faux marbre, faux plein de choses.
Les marbres sont faux, les sculptures sont en carton, en papier mâché. Tout est faux parce que dans ces créations de théâtre, il fallait généralement faire très vite. Donc on n'avait pas le temps de réaliser de grandes structures en dur, de commander à des sculpteurs des sculptures en marbre. Et donc on va très très vite. Mais derrière, on a surtout une force de frappe avec les menus plaisirs, qui sont les services qui en charge tous les divertissements à la cour, toutes les manifestations exceptionnelles, et qui peuvent vous réaliser ces décors très rapidement, qui peuvent aussi, sous Louis XV d'ailleurs, il y avait un théâtre qui était entièrement démontable dans l'escalier des ambassadeurs, et en 3 jours, tout était démonté pour pouvoir le restituer en tant qu'escalier. Et donc, on a ces artisans du spectacle qui ont un savoir-faire exceptionnel, qui se complètent tous magnifiquement. Et à force de travailler ensemble, ils ont les bons gestes et les bonnes techniques. Et grâce à cela, très vite, ils peuvent répondre à toutes les demandes, que ce soit pour les spectacles, mais aussi pour les cérémonies du sacre, pour les fêtes de mariage. Et on avait un service, donc des menus plaisir pour toutes ces manifestations extérieures qui étaient redoutables d'efficacité.
Impressionnant. Nous revoici au XXIe siècle. Ce voyage nous a permis d'apprendre, vous a permis d'apprendre le vieux français et la gestuelle de l'époque baroque au Centre de musique baroque à Versailles. Parlez-nous de cette compagnie. Quels engagements y avez-vous, Fabrice Conan?
Alors, la compagnie,
quel est son rôle?
Cette compagnie baroque, elle a été créée en 1995 par Michel Verschave, qui est un chanteur et musicologue, et qui s'était rendu compte qu'on avait retrouvé les instruments d'époque, les sonorités de l'époque, avec les diapasons anciens, mais qu'on continuait à parler avec le français moderne. Sauf que maintenant, on sait très bien que le français ancien était prononcé, parlé d'une autre façon. Et l'idée, c'était justement de retrouver les saveurs d'origine. Le but, c'est pas du tout de parler ancien pour faire vieille perruque. Le but, c'est de retrouver les couleurs de l'œuvre au moment de sa création. Et donc, il a voulu explorer davantage, en créant la compagnie baroque, cet univers de la mise en scène telle qu'elle se faisait, des codes de représentation, du phrasé, du parler de l'époque pour s'accorder au mieux avec les émotions d'origine. Et c'est comme cela qu'on s'est lancé dans cette aventure.
Alors, nous allons passer un petit extrait de vieux français. Vous vous exprimez en vieux français. On en parle juste après. Voilà. Comment s'appelle cet extrait? Vous savez, Fabrice Conan.
Je ne sais plus lequel
grave,
on a retenu,
grave.
Mais on le va
passe,
le
on
découvrir.
Passe maintenant et puis on le découvre maintenant puis on en parle juste après.
Je suis le fils d'un musicien fort habile dans son métier, fort grand ivrogne. Mais il avait ses raisons pour l'être. Ne le condamnez point sans l'entendre. Il disait qu'il n'y aurait jamais eu de musique s'il n'y avait pas eu de vin. Et il n'en buvait beaucoup de ce vin que pour puiser la musique dans sa source. Vous voyez bien qu'il était ivrogne que pour exceller dans son art, et son intention était louable. Bien des gens prétendaient qu'il buvait encore mieux qu'il ne composait. Mais c'est qu'à vous dire le vrai, il avait un petit défaut. Il chantait trop quand il était au cabaret. Ses chansons usaient toute sa verve musicale. Et puis, lorsqu'il allait travailler chez lui, il avait presque perdu tout son feu. Et de là venait que le vin ne lui profitait pas autant qu'il aurait fait sans sa mauvaise habitude de chanter.
Merci. Nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1 avec Fabrice Conan, mon invité. Donc, nous venons d'écouter un texte en vieux français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Fabrice ?
C'est Marivaux, ici, qui s'amuse des excès de certains artistes et compositeurs et qui trouve parfois, dans des substances plus ou moins licites, l'inspiration. Là, c'était à force de Chopin de vin. Mais ce qui est surtout intéressant quand on entend cette façon de prononcer les textes, oui, c'est que tout de suite, on entre dans un univers musical qui est beaucoup plus riche que le français contemporain. À force de normer le français pour avoir des choses beaucoup plus neutres, ça a été la mission de l'Académie française, hein, depuis sa création sous Louis XIII, de contrôler le langage, et bien toutes ces aspérités, toutes ces couleurs différentes et tous ces accents ont été gommés pour se caler sur l'accent parisien qui est beaucoup plus neutre, oui, beaucoup plus tonal. Oui. Sauf qu'on voit que dans ces époques anciennes, le français était très très chantant. C'était entrée. C'est pas entré, voilà. Et donc tout de suite, il y avait beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus de sons, oui, qui étaient projetés aussi. D'un point de vue écoute, c'est assez bien parce que c'est très articulé. Oui. Du coup, la voix porte mieux. Et on avait une grande richesse de couleurs dans ce français d'époque. Et ça sert notamment pour le théâtre ou pour le chant aussi, parce que là, bah, forcément, déjà, vous êtes sur la voix pour bien envoyer le son et avoir une bonne prononciation. Et ça donne beaucoup de possibilités différentes. Et vraiment, ça, je trouve que c'est intéressant d'essayer de retrouver cette variété du langage qu'on a malheureusement perdu.
Perdu, oui. Et celui qui parlait bien s'attirait l'attention, plus d'attention autour de lui. C'était aussi une fonction politique ?
Après, qui a la parole a le pouvoir. Hein. Qui sait bien parler, bien faire passer ses idées, bien enrober son discours, vous êtes suivi. Si vous n'avez pas d'éloquence, on ne va pas vous écouter, on va vite décrocher et du coup, vous êtes perdu. Ouais. Donc l'art oratoire qui était enseigné vraiment comme une discipline très importante, ouais, c'est ce qui était devenu après au XIXe siècle l'éloquence. Et ça s'était un petit peu passé de mode parce qu'on trouvait que c'était un peu ampoulé, mais ça permettait de maîtriser le discours, la prise de parole en public et à cela avoir de l'impact sur l'auditeur.
Oui. Aujourd'hui, l'évolution du langage fait que les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup moins d'accent. On avale plus nos mots. Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous regrettez un peu,
et c'est même parfois plus que du regret, c'est quasiment désolant quand vous avez des comédiens qu'on ne comprend pas, qui n'articulent pas, parce qu'ils ont l'habitude de jouer avec des micros quand ils sont au cinéma. Alors évidemment, on n'a pas besoin de projeter les sons, puisque vous avez le micro quasiment au fond de la gorge avec les perches, mais vous les mettez sur une scène, passez le cinquième rang, on n'entend plus personne, et on est obligé de sonoriser les théâtres avec certains comédiens, parce qu'ils n'ont pas le bagage pour faire passer cette voix.
Ils n'ont plus de cours d'éloquence pendant...
Non, très peu, c'est très très rare. On considère que c'est très vieux, tout ça, c'est très poussiéreux, que ça ne sert plus à grand-chose. Oui. Seulement, vous les mettez au milieu d'une cathédrale pour faire un récitant au milieu, je ne sais pas, des sept dernières paroles du Christ de Haydn, vous ne les entendrez pas passer le troisième pilier. Parce qu'il faut quand même avoir une déclamation. Alors, c'est un petit peu exagéré, c'est un petit peu outré. Mais déjà, être sur scène, c'est pas naturel, donc tout est faux. Alors, parler vrai alors que ce que vous êtes en train de faire est faux, c'est les principes 20e de vous faire croire que ce que vous êtes en train de jouer, c'est la réalité. Mais non, tout est faux. Ou alors, vous devenez un psychopathe, vous devenez un assassin, et là, ça devient dangereux. Donc, il faut jouer à jouer, c'est le paradoxe du comédien. Tout ça, c'est Diderot, comme on l'avait au XVIIIe siècle. Toujours avoir un pas de côté, s'amuser à jouer, et en s'amusant, en prononçant, en exagérant, eh bien là, les choses vont aller beaucoup plus profondément dans l'attention, dans le cœur aussi des personnes qui vous écoutent. Il ne s'agit pas d'en faire des caisses non plus, hein, on n'est pas là pour en rajouter.
Bien sûr. Ouais.
Mais pour jouer, s'emparer de toutes ces nuances, toutes ces couleurs. Vous avez une palette de sons qui est merveilleuse, sauf qu'on l'a réduite. Donc les couleurs, elles sont toutes un petit peu pastel. Il y avait des couleurs très brillantes, hein, avec des accents très chantants, qui apportaient aussi à l'attention. Et moi, ce que j'adore quand on est à Versailles, c'est entendre des Québécois.
Oui.
Parce que, ils ont cet accent fabuleux,
vrai,
qui est en quelque sorte un français fossilisé de la Renaissance.
Oui, un français.
Puisqu'ils sont partis à cette époque-là avec le parler français et ils n'ont pas subi les transformations du sol métropolitain. Et donc, on est beaucoup plus proche du parler de Louis XIV quand on entend des Québécois à Versailles qu'en entendant un français d'aujourd'hui.
Et oui, c'est rigolo ce que vous dites. Donc, en fait, il faudrait envoyer tous les comédiens, soit au Québec, soit à la Compagnie Baroque.
Il y a deux options.
Il y a deux options.
Mais surtout, retrouver l'articulation.
Ouais.
L'articulation qui maintenant est plus tellement enseigné, sauf que on a fait des tests des fois quand on faisait avec la Compagnie Baroque des motets dans la cathédrale par exemple de Clermont-Ferrand. Si vous n'articuliez pas, s'il n'y avait pas cette prononciation, ça passait pas du tout. Le son était mangé par l'écho, par la réverbération. Donc il faut marquer les choses, ne serait-ce que pour la compréhension en face. Si on parle trop vite, sans nuance, ça devient une grande logorée très plate, et du coup l'auditeur a du mal à s'y retrouver. Il faut mettre en avant ce qu'on veut dire, les notions importantes. Et ça, on a tendance à moins le faire aujourd'hui.
Donc il y a pas aujourd'hui, ça ne se fait plus même dans les écoles de cinéma, même dans les
très peu les conservatoires, il n'y a pas de cours de déclamation.
Il n'y a pas de cours pour les chanteurs. C'est étonnant ça.
Et pour les chanteurs maintenant, on est omnibulé par le son, l'exactitude, la pureté du son. On n'a jamais eu des notes aussi belles, un son aussi bien, sauf qu'on comprend plus rien.
D'accord.
On est obligé de sous-titrer les opéras en français.
Ah oui,
Ah oui, mais enfin bon, vous écoutez les façons dont on interprétait Debussy il y a 60 ans, où tous les mots étaient compréhensibles, et aujourd'hui, on a des sons qui sont magnifiques, mais il n'y a plus d'histoire.
Il n'y a plus d'histoire.
Ça, c'est dommage quand même, parce qu'on est là pour raconter quelque chose.
Exactement,
Sinon, pas la peine de
prendre un... Il faut pouvoir capter son auditoire.
Pas la peine
de
prendre une poésie, on fait juste « Ah oui, et puis ça suffit. Sauf que non, quand même.
Alors Fabrice Conan, qui vous racontait des histoires quand vous étiez petit?
Quand j'étais petit, c'était ma maman. Papa s'occupait de l'histoire avec un grand H, maman s'occupait de toutes les histoires, mes grands-parents aussi, je passais beaucoup de temps avec eux, puis j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps aussi avec mes arrière-grands-parents. Tout le monde me lisait des histoires, me racontait des histoires, et ça, j'adorais toujours ces moments.
Qu'est-ce que ça représente, la lecture, pour vous?
La lecture, c'est le voyage immobile par excellence, c'est l'imaginaire, c'est la découverte de monde, découverte de rêves aussi, c'est pas forcément que des choses concrètes, mais c'est une évasion.
L'imagination.
C'est l'imagination, et ça construit, ça nourrit, ça donne de la matière pour faire plein de choses ensuite.
Alors aujourd'hui, c'est vous qui racontez des histoires, vous avez écrit des livres, et puis vous racontez des histoires dans vos conférences également. C'est tout le côté fabuleux du récit. On va passer à un morceau de Bois Mortier. C'est le disque...
C'est le disque des Fastes de Bacchus,
voilà. On va le passer maintenant, et puis on en parlera aussi tout de suite après. Thank you. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. Les grands s'amusent avec mon invité Fabrice Conant. Fabrice Conant, je vous laisse désannoncer ce morceau.
Un morceau de Joseph Baudin de Boismortier, nous sommes au XVIIIe siècle, qui s'appelle « Laissons-la dormir Grégoire », plus exactement « Dormir Grégoire », comme le disaient les chanteurs qui arrivaient. Et ça fait partie de ces airs sérieux et à boire, comme on en composait pendant tout le XVIIe et XVIIIe siècle. C'est tout un pan de musique qui est complètement oublié, de ces musiques de divertissement qu'on chantait le soir entre amis, pendant les repas aussi, en fin de soirée, sur des thèmes qui sont toujours assez simples. C'est le combat entre l'amour et Bacchus, ça se chamaille, on boit un coup, on se rabiboche, voilà, l'intrigue est très simple, et c'est surtout un prétexte au plaisir de la musique, et Boismortier était un compositeur qui excellait dans ce type de musique et de divertissement.
D'accord, très bien. Alors je voudrais parler de votre livre qui s'appelle « Les plaisirs enchantés de Louis XIV et autres fêtes inoubliables de l'histoire » aux éditions Prisma. Je voulais savoir à quand remonte la fête en tant que divertissement princier et scénographie du pouvoir. Alors dans ce livre, justement, vous commencez à vous évoquer Cléopâtre et Marc-Antoine, un banquet sur un palais flottant. Donc est-ce que ça commence, est-ce que la fête remonte à Cléopâtre et Marc-Antoine?
Ça, c'est les souvenirs les plus consignés, les plus attestés, déjà auparavant, de toute façon, la fête comme instrument de pouvoir, on s'en est servi depuis, quasiment toujours.
Oui.
Vous invitez, vous en mettez plein la vue à la personne qui arrive, il va ressortir avec une impression assez forte, beaucoup plus que par des discours ou par toute une série de mesures. Là, concrètement, il voit votre force de frappe, votre talent de mise en scène, votre pouvoir, et toutes les fêtes des grands, donc depuis dans le livre on parle, effectivement on commence avec Cléopâtre et on va jusqu'au début du XXe siècle, mais on voit à chaque fois que le but derrière c'est de montrer la puissance, la richesse, la force de la puissance organisante pour en mettre plein la vue à la personne qui est en face. Parce que derrière, il va y avoir des récits, il va y avoir des rapports, il va y avoir des ambassadeurs qui vont parler de tout cela et qui vont dire, vous voyez qu'en face, là, quand même, on consacre beaucoup d'argent pour des fêtes, c'est futile, d'accord, mais c'est un instrument de communication.
Et oui, et de limite de propagande aussi.
Communication, propagande, c'est
pareil,
la même chose.
C'est,
c'est juste un changement sémantique, mais
voilà,
les services communication, ceux qui sont au service d'une entreprise ou de l'État, ce sont des services de propagande.
Ouais. Dans votre dernier chapitre, vous évoquez, donc on est en 1902, Bonnie de Castellane et son palais rose, qui fait construire un palais.
Une sorte d'inspiration du Grand Trianon de Versailles avec ce marbre rose. À l'intérieur, des décors Louis XIViens, immense escalier rempli de marbre, de fresques. Une folie complète. Il a englouti un argent colossal, mais heureusement, il s'était marié quelques années auparavant avec Anna Gould. Donc là, c'est tout l'argent de cette héritière américaine qui lui a permis de se livrer à cette démesure. Et là aussi, dans ces fêtes qu'il organise au moment de l'inauguration de son palais rose en 1902, on est sur l'avenue Foch, enfin l'avenue du Bois, tel qu'on l'appelait encore à l'époque, il va impressionner le tout Paris pour affirmer son rang, son statut. Une revanche aussi un peu sur l'histoire, puisque les Castellane, une famille très ancienne mais complètement désargentée à cette époque, et grâce à cela, elle retrouve vraiment un rang et une possibilité d'avoir le pas dans la société parisienne. Un peu une des dernières fêtes aussi extravagantes qu'on ait pu faire, avec surtout un personnage qui avait beaucoup de talent et beaucoup de goût. Ça, c'est merveilleux quand l'argent rencontre le goût. C'est pas si fréquent.
C'est pas si fréquent.
Mais du coup, on a des résultats qui sont exceptionnels par la qualité de ce qui est entrepris. Là aussi, la qualité des travaux qui ont été faits, des artisans qui vont réaliser les décors, l'architecture du palais. Et puis derrière, une mise en scène de fête complètement époustouflante.
Ouais. Est-ce qu'il y a des équivalents à notre époque ?
Oui. Alors, il y a toujours des fêtes comme cela incroyables. Avec du goût. Alors, comme je vous disais, argent et goût ne sont pas forcément associés. Donc, on peut avoir de grandes débauches d'argent, mais avec un goût absolument immonde. Mais il y a des fêtes qui sont organisées comme ça par de grandes fortunes, avec des décorations incroyables.
Oui, vous avez des exemples ?
Alors, je vais prendre un exemple là, déjà un petit peu ancien pour le mariage du fils de Mittal, par exemple. Oui. Où là, on avait des décorations avec des fleurs qui venaient de toute l'Europe, même des fleurs qui venaient d'Inde pour décorer les grilles du château de Vaux-le-Vicomte, des reconstructions de palais indiens, parce que le château de Vaux-le-Vicomte était trop petit, donc on a construit quelque chose sur le côté. Ah. Et même à Versailles, lorsque les soirées, c'est un mariage qui a eu lieu sur toute une semaine, où on avait comme cela chaque fois des reconstitutions, des décorations qui étaient créées, mais avec beaucoup, beaucoup de finesse, parce que chaque fois on s'était adressé aux meilleurs artisans, meilleurs décorateurs, meilleurs fleuristes, pour faire quelque chose de très raffiné. Mais après, certains ont les mêmes possibilités financières, mais ils n'ont pas le goût, pas le bon goût, parce qu'ils n'ont pas été habitués, l'œil n'est pas formé. Enfin, pour eux, c'est leur bon goût, donc
ils se font plaisir,
c'est l'essentiel. Mais avec cette recherche de raffinement, c'est quelque chose qui est moins fréquent, mais ça existe encore.
Oui, d'accord. Alors, j'ai un jeune Sixte qui voudrait vous poser quelques questions. Voilà, c'est un passionné d'histoire. Donc, Sixte, je te laisse poser tes questions. Fabrice Conan.
Merci beaucoup, monsieur, de me permettre de vous poser ces questions-là. J'ai une première question à propos de la cour de Louis XIV, que vous avez donc beaucoup étudiée. On sait que Louis XIV a notamment fait construire son palais à Versailles à la suite de la Fronde qu'il a connue étant jeune, et donc que c'était un moyen pour lui de contrôler la cour qui aurait pu lui porter préjudice. Sauf que cette cour coûtait énormément d'argent au roi et du coup à l'État, et je me demande si ce faste de la cour n'était pas un peu excessif pour le but recherché qui était celui de contrôler les nobles.
Alors, pour un politique, museler toute opposition et tout esprit critique, ça n'a pas de prix. C'est un investissement justement pour les avoir à domicile et éviter qu'ils aillent dans leur château en province organiser quelques révolutions ou quelques frondes. Pour le roi, c'est un investissement pour la paix du royaume et pour pas revivre justement cette révolte de la noblesse. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à estimer le véritable coût de tout cela, parce que c'est englobé dans la construction du château, dans le fonctionnement aussi du château. Mais si on rapporte par rapport au budget de l'État et au fonctionnement de l'État, la construction de Versailles, c'est entre 3-4% du budget annuel pour la France. Donc évidemment, c'est une somme, mais finalement, c'est pas si colossal que ça. Évidemment, il y aurait eu d'autres priorités, d'autres aides, des choses qui nous semblent beaucoup plus urgentes, mais c'était finalement assez possible, soutenable au moment où Louis XIV le fait, même si évidemment c'était un coût évidemment important. Certains ont estimé que la construction de Versailles, le coût, c'est le coût de la construction d'un porte-avions nucléaire. On en a à l'heure actuelle, qui tombe souvent en panne et qui n'arrive pas à sortir de la rade de Toulon parce que les moteurs ne sont pas suffisamment bien calibrés. Depuis plus de 350 ans, Versailles continue à voguer. Donc vous voyez que c'est des investissements, ce sont des choix. C'est évidemment un choix qui avait été fait par le roi, mais qui lui a permis de dompter, comme ça, pendant finalement une bonne période, cette noblesse.
D'accord, merci beaucoup. Et donc j'aurais une autre question là sur la langue française, parce que donc vous savez dire le vieux français, ce qui est assez exceptionnel. J'ai lu Rabelais l'année dernière, Pantagruel de Rabelais, qui est un texte écrit en vieux français, qui est un texte écrit à peu près un siècle avant la création de l'Académie française, et je ne comprends rien, ou quasiment rien. Et pourtant, pour des textes écrits juste après la création de l'Académie française, je pense à tous les grands classiques, comme par exemple l'Avare de Molière, qui est un immense classique, en lisant le texte original, je comprends tout à fait, et on nous enseigne aujourd'hui le texte original, donc j'aimerais savoir quel est le poids de l'Académie française sur la langue, comment est-ce qu'elle a fait pour autant s'imposer, alors que vous nous avez parlé des spécificités régionales partout en France.
Eh bien justement, elle a essayé de faire en sorte que l'on puisse bien se comprendre entre toutes les régions d'un pays qui était encore en agrandissement. Hein, au XVIIe siècle, il y a encore de nouvelles provinces qui arrivent, de gens qui ne parlaient pas forcément le français en première langue et qui maintenant doivent le maîtriser. Elle norme beaucoup plus le langage, les grammaires se diffusent, alors qu'auparavant, le parler local l'emporte. Et surtout à l'époque Renaissance, il y a ce poids vraiment régional qui est beaucoup plus fort. Alors déjà, qui va changer avec l'édit de Villers-Cotterêts, avec François Ier, qui va lancer le français comme langue officielle. Donc on va être tous obligés de s'y frotter plus ou moins pendant un moment. Auparavant, vous pouviez passer toute votre vie en plein centre de la France et parler avec votre patois et jamais entendre le français qu'on estime officiel maintenant. Donc à partir de la fin de la Renaissance, on va glisser vers une langue qui est beaucoup plus partagée. Avec cela, on va mieux arriver à se comprendre. Et ce côté un peu rugueux, très spécifique, hein, c'est vrai que le parler de Rabelais ancien, il faut s'accrocher, hein, c'est vrai qu'on décroche très très vite. C'est plus du tout la même façon de parler qu'on a et de construire ses phrases à partir du XVIIe siècle. Et en cela, vraiment, le rôle... Alors, de l'académie, mais aussi de la cour, des puissants, parce que l'académie peut décider quelque chose. Quand vous êtes au fin fond du Béarn, tout en haut à Dunkerque, franchement devenue française sous Louis XIV, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Hein. Mais c'est par la diffusion des relais d'influence, comme on dit aujourd'hui, ceux qui savent, ceux qui font le théâtre, ceux qui circulent dans ce milieu savant et lettré, qu'on va imprégner et diffuser comme ça ce nouveau parler dans lequel justement on a déjà commencé à gommer, je vous disais qu'on gommait les accents, ben là c'est ça aussi, et puis les mots les plus bizarres, les plus étonnants, on est en train de les transformer pendant toute cette période-là. Et c'est donc normal qu'on s'accroche aux pages en lisant Rabelais et qu'avec Molière ou Racine, on ait beaucoup moins de difficultés parce qu'on a complètement changé d'univers sonore.
D'accord, je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Merci beaucoup, monsieur.
Merci, Sixte.
Merci à toi, Sixte. Alors, tu animes des ateliers culturels pour les seniors chez Tous en Tandem, Génération Complice. Voilà, donc on les remercie aussi. On va passer un petit morceau de musique, Lully, le roi danse. Et on en parle juste après. À tout de suite.
Thank you.
êtes sur Aligre FM 93.1, les grands s'amusent avec Fabrice Conan. Fabrice Conan, je vous laisse parler de ce choix de musique, Lully, le roi danse.
Ah bah oui, Lully qui est quand même le metteur en musique et l'inventeur de la bande-son du règne de Louis XIV. Et là encore, c'est une très belle astuce de Louis XIV d'aller chercher les talents, cette fois-ci par un Florentin, pour en faire l'inventeur de l'opéra et de la musique française. C'était la même chose, on parlait des artisans. Les grands artisans du mobilier français, ce sont généralement des Allemands, des Autrichiens. Et donc là, avec Lully, là, il fait très très fort, parce que non seulement il a quelqu'un qui est très doué pour la scène, mais qui en plus va comprendre les attentes du moment. Et dans l'idée de recréer la tragédie antique des grandes pièces de l'Antiquité, on savait qu'il y avait des chœurs, donc on va mettre de la musique dessus, on le perçoit à la façon du XVIIe siècle, et il invente l'opéra. C'est ce qu'on appelait les tragédies lyriques à l'époque, même si là on entend le début d'un tédéum. En fait, sa musique, que ce soit un tédéum pour les grandes messes ou des opéras ou des pastorales, il y a la même force, il y a la même verve. Et surtout, ce qui est très intéressant dans cette musique baroque, c'est qu'il y a beaucoup de choses écrites, mais qu'il y a beaucoup de parts à l'interprétation. Et chaque artiste peut rajouter un petit peu de notes, des variations, faire des effets, ce qui fait que d'un ensemble à l'autre, d'un musicien à l'autre, votre caractère peut aussi s'exprimer. Oui. Et cet art baroque, que ce soit pour le théâtre ou pour la musique, ce n'est pas restrictif ou limitatif, c'est suggestif. Et derrière, en fonction vraiment de l'esprit de chacun, on peut y glisser un peu de ses humeurs également. Donc c'est vraiment un matériau vivant.
Oui, oui, oui. Alors, à propos, vous, comment vous faites pour intéresser un jeune public à l'histoire? Parce que vous en parlez extrêmement bien, vous avez plein d'anecdotes. Vous avez une manière très vivante de transmettre l'histoire. Comment vous faites? Comment vous y prenez?
Déjà, il faut adapter ce que l'on va dire en fonction de l'auditoire. Donc, il faut commencer par écouter. Le problème parfois quand on arrive pour présenter quelque chose, c'est que on a très envie de tout dire, de tout bien faire passer, donc on s'accroche un peu à son discours, à ce qu'on a calibré, mais on oublie d'écouter en face ce qui est en train de se passer, la façon dont c'est perçu et les réactions, l'assimilation de ce qu'on est en train de dire. Ça vient de la pratique du théâtre, où certes on joue, on a un texte à dire, mais il faut voir comment il est ressenti en face. Même chose quand vous faites une lecture, une conférence ou une intervention, voir si on écoute bien, voir si on n'est pas en train d'être un petit peu ennuyeux et si ça décroche. Donc, il va falloir repimenter avec une petite anecdote, en rajoutant quelque chose pour reprendre l'attention. Ça, c'est le truc de tous les orateurs, les avocats, les curés, on fait tous le même métier. On parle et on essaie d'être compris et entendu. Donc, il faut pouvoir comme cela repimenter un peu par des anecdotes, comme disais, des fois pas hésiter à changer un peu le registre du langage, reprendre des choses un petit peu plus modernes ou plus populaires aussi pour remettre un petit peu de sel aussi dans ce qu'on est en train de raconter. Et auprès des plus jeunes, essayer aussi de faire des liens avec ce qu'ils connaissent, avoir des références avec l'époque dans laquelle on est. Oui. Parce que cette histoire, certes, c'était il y a 300 ans, mais les personnages étaient les mêmes. Les têtes sont les mêmes, on a juste retiré les perruques. Voir comment les mêmes sujets, les mêmes préoccupations peuvent passer auprès de jeunes ou de moins jeunes.
Alors, à propos de ça, qu'est-ce que vous pensez des séries historiques qu'on peut voir, par exemple, sur Netflix ou ailleurs, pour justement qui...
Je trouve que c'est quelque chose quand même d'assez intéressant de voir qu'elles se sont multipliées depuis vraiment une quinzaine d'années. Il y a de tout. Il y a celles qui, moi, m'intéressent parce qu'elles essaient de suivre quand même bien l'histoire et restituent bien les atmosphères. Celles qui m'agacent beaucoup plus, c'est celles qui prennent des personnages historiques ayant existé, mais on va faire n'importe quoi à côté. Donc on prend un Louis XIV ou un Victor Hugo, enfin, que sais-je, et à côté on va lui faire vivre des choses qui ne se sont jamais passées, le faire ressentir et se comporter d'une façon qu'il n'aurait jamais faite, et ça c'est un peu malheureux parce que ça montre la pauvreté de création de certains auteurs qui s'emparent on va dire, de Marie-Antoinette ou de Louis XIV,
ouais.
et qui derrière vont faire passer leur sujet à eux, mais qui n'est absolument pas connecté avec le personnage
avec
historique. Alors, à ce moment-là, autant faire une vraie fiction.
Oui.
Mais alors, temps, et puis voilà.
Comment ça se passe, justement, le dialogue entre vous et le cinéaste? Parce que est-ce que comment vous interagissez avec le metteur en scène,
le réalisateur? Alors, quand on est appelé pour du conseil historique, ce que j'ai pu faire de nombreuses fois,
ouais.
Soit on est consulté en amont et on va donner des conseils sur l'époque, sur plein de détails, soit, ce qui arrive assez souvent aussi, c'est que tout est préparé et puis d'un seul coup, le producteur ou le réalisateur se disent « Ah oui, mais on ne sait pas comment ça se passait à cette époque-là, on ne sait pas ce qu'il faisait, ça serait bien de savoir un peu. »
Oui, parce que là, du coup, vous êtes conseillé sur ces films, sur ces séries.
Et on arrive finalement en fin de route où vous allez passer plusieurs heures à discuter avec le metteur en scène.
Oui.
Pour lui dire comment ça se passait, pour essayer de donner l'authenticité de l'époque. Mais souvent, on arrive déjà un peu trop tard, puisque tout est déjà calibré. Et puis, parfois, vous expliquez quelque chose, il vous dit « Ah oui, c'est très bien, ah oui, c'est parfait, très bien. Bon, alors on va faire, allez, on y va, on fait tout, sauf ce qu'on vient d'expliquer. »
Ah oui, donc là, c'est un peu frustrant.
Donc, on est là, on apporte soi-disant une caution, mais derrière, on n'écoute pas. Donc, alors certains, si, le font. Hein. Certains le
Et
font très,
on
ne
vous
bien.
Appelle pas en amont, justement, avant, au moment de l'écriture?
Pas souvent. Alors parfois oui, mais c'est assez rare parce que la façon dont tout cela se développe, c'est vraiment une industrie du cinéma. Il y a les scénaristes, il y a ceux qui vont développer les dialogues derrière,
ouais.
Et qui sont vraiment dans la création et dans la fiction,
mmh.
et qui justement pour eux trouvent que certes l'époque ancienne, voilà, c'est le sujet, mais c'est pas forcément la matière la plus intéressante.
Ouais.
On le voit très bien avec les costumiers, hein, qui prennent des exemples, des tableaux, et puis qui derrière vont faire des variations.
Mm-hmm.
Bien sûr, il y a toujours une part de réinterprétation. Alors parfois, ça n'a rien à voir.
Ah oui.
alors qu'ils ont une documentation, une connaissance parfaite.
Hein. Ouais,
donc c'est la liberté de la création qui est bien aussi. Mais vous voyez, je préfère qu'on me dise « Il était une fois dans un royaume, il y a très longtemps, un roi, et puis voilà, on est dans une aventure.
Mm-hmm. »
Tandis que de nous dire « C'est Louis XV » ou « C'est Marie-Antoinette
mm-hmm. »,
et puis derrière, il se comporte comme, on l'a vu pour Sofia Coppola avec son Marie-Antoinette.
Mm-hmm.
C'est tout sauf le personnage.
Mm-hmm. Donc pour vous, ouais, c'est une vraie création, ça a
oui.
plus de
oui.
sens. Hein.
Oui,
ouais.
À ce moment-là, ouais. une vraie fiction,
une vraie
invention.
Ouais.
Mais c'est sûr que c'est plus porteur de se raccrocher à une grande reine de l'Antiquité,
ouais.
une reine Margot.
Ouais,
ça évoque déjà des choses que de partir à plat.
Ouais.
Mais le cinéma a des moyens comme ça pour nous emmener dans un imaginaire qui est fabuleux. Ça, c'est fabuleux.
Alors aujourd'hui, le château de Versailles, enfin aujourd'hui, voilà, avant le Covid, on va dire que c'est aujourd'hui, organise des fêtes costumées comme le grand bal masqué, je ne fais pas de jeu de mots, les fêtes galantes dans la galerie des glaces. Quelle est l'offre du château pour les jeunes aujourd'hui?
Alors pour les jeunes, maintenant, il y a aussi beaucoup de visites. Alors pour le très, très jeune public, depuis très peu de temps, il y a aussi des visites pour les familles avec des enfants 2-3 ans. Hein. Donc
ah oui.
On commence très,
ça
très tôt. Bah oui, il faut
tôt,
les former
ouais.
très, très tôt.
donc
il y a vraiment des offres très, très variées de découvertes, soit par des jeux, ça peut être des parcours, ça peut être des chasses au trésor. Il y a des escape games aussi
ouais.
qui sont faits. Donc il y a différentes façons de découvrir Versailles, comme le font plein de monuments aussi, hein, pas
mmh.
seulement dans une visite plus traditionnelle, sous un aspect beaucoup plus ludique, avec parfois des parcours qui sont un peu contés, avec des fictions qui sont mélangées, mais en se raccrochant à chaque fois sur la réalité du lieu, sur les objets. Donc là, il y a quand
ouais.
même le
ouais.
contenu. Mais il y a plein de formats très, très différents pour tous les âges.
Pour tous les âges, il y a des podcasts aussi. Hein,
oui, il y a ouais. aussi des podcasts. Il y a ouais. plein de petites émissions, des petites pastilles qui sont produites par le site du château. Et on peut, quel que soit son degré de connaissance ou son âge, trouver une satisfaction vraiment dans ces propositions.
Oui, donc c'est une proposition qui est assez riche.
Oui.
Ouais. Quelle est la plus belle aventure de votre vie, Fabrice?
La plus belle, c'est peut-être la façon dont j'ai eu l'occasion de découvrir Venise, en ayant le temps, un temps long, de rester très très longtemps dans cette ville, ouais, par des amis qui m'avaient demandé, comme cela, d'aller garder leur maison dans Venise, et de rentrer comme cela dans un univers, dans une cité qui est quand même très particulière, et avec, oui, un fonctionnement on ne peut plus original. Et ça, ça a été une aventure formidable qui a duré plus d'une vingtaine d'années, où parfois je passais presque 6 mois finalement sur place, et d'entrer comme cela dans cette histoire qui est alors la présente à chaque pas, mais aussi avec un monde, voir comment il vit aujourd'hui, comment on vit avec ce poids, cette présence de l'histoire, comment on peut s'en inspirer. Et ça, ça a vraiment été une découverte formidable et très inspirante.
Bravo. Si vous aviez un message à passer aux plus jeunes aujourd'hui, quel serait-il ?
Faites ce que vous aimez. Ne cherchez surtout pas à aller là où on veut vous conduire si ça ne vous intéresse pas, parce que vous allez vous ennuyer.
Oui.
On vous dira tel métier c'est mieux, tel autre métier c'est mieux. Ça change très vite et rien n'est gagné. Donc autant faire ce que vous aimez, parce que là vous le ferez avec passion. Si vous le faites avec contrainte, vous n'arriverez à rien et vous allez vous ennuyer éternellement. Donc de la curiosité et surtout du plaisir.
S'amuser.
Ah oui,
comme vous le faites, j'ai l'impression. Hein.
Bah,
vous prenez toujours autant de plaisir.
Peut-être qu'un jour, je commencerai à travailler, mais depuis tout ce temps, moi, je m'amuse et avec délice.
Et vous ne travaillez pas, c'est ça ?
Non. Bah non, je raconte des histoires, je me promène, je regarde des tableaux, je vais sur scène, je fais des spectacles. Ce n'est pas du travail, tout ça.
Ouais. Est-ce que vous êtes bien dans votre époque ?
Ah oui, très, très bien, parce qu'elle offre justement la possibilité de faire tout ça. On a toutes ces connaissances. Moi, je ne veux surtout pas vivre, mais ne serait-ce qu'une journée au XVIIe siècle.
Ah oui.
Déjà, on transpose tout ce qu'on a en fantasme, en idée, et finalement, on est à chaque fois très, très loin de la réalité.
Ouais.
Donc, moi, mon époque me va très, très bien.
Bon, bah alors, on y reste. L'émission se termine, malheureusement, ça passe très vite. Je vous remercie infiniment, Fabrice Conan, Sixte aussi. Voilà, on a passé un moment très enrichissant. Je vous retrouve le 25 mars et entre-temps, vous pouvez me rejoindre sur mon site www.lesgrands.org. Le livre de Fabrice, que vous pouvez trouver en librairie, qui s'appelle Les plaisirs enchantés de Louis XIV et autres fêtes inoubliables de l'histoire aux éditions Prisma. Merci à la technique. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir tout le monde. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. And the world.